midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon week-end à tous. Mon invité aujourd'hui s'appelle Jean-Gabriel Cause. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe, ravi d'être avec vous.
Vous avez appris, je viens d'apprendre que vous étiez animateur radio dans le,
il y a très longtemps, dans
l'Aveyron.
Oui, tout à fait. C'était il y a, je vous parle d'un temps que même les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Vous voyez, ça remonte un petit peu.
Alors, en termes de radio, c'était avant ou après 1981? C'était ça. Tout s'est joué à ce moment-là.
Alors, on était pirates en 80 et puis en 81 quand Mitterrand est arrivé. On s'est dit, ça y est, on peut avoir notre fréquence. On voulait notre fréquence. Seul problème, on avait 12 ans. Heureusement pour nous, on avait dans notre immeuble au rez-de-chaussée une boulangerie et on avait un apprenti boulanger qui venait d'avoir 18 ans, qui est devenu le directeur de notre radio. Donc on était en cinquième, nous. On était tout un groupe de copains en cinquième. On passait à peu près 8 disques, hein, parce qu'on n'avait que 8 disques. Donc c'était peu varié et on avait à peu près une couverture de 100 mètres. Après, on nous captait plus au départ.
C'était l'histoire, c'est la grande histoire de la radio. Hein. C'est l'histoire de la radio libre, en fait, comme on disait à l'époque. Hein.
Exactement, c'était formidable.
Alors aujourd'hui, vous êtes écrivain et designer, spécialiste de l'influence des couleurs sur nos perceptions et comportements.
Oui.
En tant que designer, le layol, il vient d'où, le couteau?
Ah oh là, c'est une longue histoire. Le layol, en fait, c'est un couteau.
Parce qu'il y a une polémique en ce moment. Il y a une vraie histoire.
Qui vient de Corse, me dit-on. Alors là, peut-être que les puristes vont. La forme du couteau est corse. Par contre, ce qui fait la spécificité du layol, c'est le ressort qui est particulier. Et après, a été rajoutée cette fameuse abeille. Tiens, pour la petite histoire, d'ailleurs, c'était pas une abeille. C'était une mouche. Mais au niveau marketing, avant même que le mot marketing existe, avoir une mouche de derrière de vache sur son couteau, c'était pas très chic. Donc ils ont rajouté deux petits traits pour qu'on parle aujourd'hui d'abeille. J'ai peut-être trahi un secret et les Aveyronnais vont m'en vouloir.
Bah oui, non. Le layol, c'est à layol.
Absolument.
Monsieur.
Par contre, le layol est à layol, forcément.
Hein, parce que pour tous ceux, ce sont des usurpateurs.
Tout à fait.
Des copies. Vous publiez Les couleurs invisibles aux éditions Flammarion. Vous dites que c'est un livre enrichi en vous-même. Alors, est-ce que c'est une formule marketing ou est-ce que finalement, il y a beaucoup plus de vous dans ce livre et de vos expériences que dans vos précédents romans?
Alors, ça doit être une formule marketing étant donné que vous me la prenez. Je ne sais pas où j'ai enrichi en moi-même. Mais c'est une bonne formule dans le sens où c'est vrai. C'est-à-dire que pour mon troisième roman, je pense que ça, c'est peut-être mon plus personnel. Je parle à la première personne du singulier. Et j'ai voulu en même temps mélanger ma passion qui est le bateau, je fais beaucoup de voiles, et mes connaissances sur la couleur. Et j'ai écrit ce livre en partant du principe que je trouvais formidable, et je le sais depuis toujours, mais je ne savais pas comment le traduire, que la couleur n'est qu'une illusion. Les couleurs n'existent pas en fait. Fondamentalement, c'est notre cerveau qui crée ces couleurs, mais il n'y a pas deux personnes sur Terre qui voient exactement les mêmes couleurs. C'est-à-dire que si vous veniez dans mon cerveau, ce que moi je vois pour orange, peut-être que vous direz, mais non, c'est pas tout à fait orange, c'est peut-être saumon. Mais comme vous avez le référent orange du fruit, pour vous, la couleur que vous la voyez, mais c'est pas forcément du tout la mienne.
C'est peut-être aussi la façon dont on nomme les choses qui change la perception.
Alors, il y a ça aussi. Mais il y a également le fait que les femmes, par exemple, voient les couleurs légèrement plus chaudes que les hommes. Et puis, si on va même plus loin, on considère qu'à peu près aucune espèce animale n'a la même vision des couleurs que nous. Donc, c'est bien la preuve que c'est une illusion. Un litre, c'est un litre. Ça, c'est mathématique. Une couleur bleue, ben, pour certains, c'est peut-être un tout petit peu plus turquoise ou un tout petit peu plus violacé.
D'accord. Donc, ce livre n'est pas enrichi en vous-même.
Si, absolument. Il est enrichi.
Il n'y a pas plus de vous-même.
Il y a deux transats que j'ai eu la chance de faire. D'ailleurs, en me disant que j'allais écrire en bateau et j'ai pas écrit une seule ligne. Mais j'ai voulu essayer de raconter aussi ces voyages en bateau qui sont extraordinaires et c'est difficile à décrire. Donc je me suis dit, je vais essayer.
À bord du Lorima.
À bord de Lorima, exactement, qui était mon voilier. Alors l'histoire est assez belle. En fait, on avait acheté un bateau, j'habite à Paris, un bateau à la Grande Motte. Ce qui fait qu'on en faisait à peu près trois fois par an. Quand on voit le prix d'un bateau, c'est absolument une hérésie d'avoir un voilier aussi loin. Et un jour, j'ai dit à ma femme, écoute, on va aller naviguer aux Antilles. Et il me dit, mais ça va pas, non? Déjà qu'on a un bateau à la Grande Motte et qu'on n'y va jamais. Et je lui ai dit, écoute, je vais l'amener. Donc en famille, j'ai été jusqu'à Gibraltar, puis avec des copains aux Canaries, puis au Cap-Vert, puis aux Antilles. Et là, donc, j'ai fait ma croisière familiale avec femme et enfants aux Antilles.
Bon. Là, en tout cas, dans votre livre, il s'appelle pas Lorima, il s'appelle...
Il s'appelle 3 égale 1. Parce que...
C'est un livre sur...
C'est un livre qui aborde très 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 légèrement, c'est un gros mot de le dire, mais ça peut faire peur à certaines personnes, mais c'est la physique quantique. Et moi, je trouve ça absolument formidable. c'est pas formidable. Enfin, je pense que j'y, même pour avoir beaucoup travaillé le sujet, je pense que j'y comprends encore strictement rien en physique quantique. C'est très très compliqué. D'ailleurs, il y avait un prof de physique quantique à Harvard en fin d'année. Il a dit à ses élèves, si vous m'avez compris, c'est que je n'ai pas été clair. Parce que personne ne peut comprendre la physique quantique. C'est tellement éloigné de nos perceptions, c'est tellement différent de nos intuitions que c'est quasiment impossible à comprendre. Mais ça m'intéressait de, voilà. Les couleurs sont des illusions. Poussons encore plus loin les illusions. Et abordons la physique quantique.
Alors aujourd'hui, la physique quantique, on en met partout. Hein. Je suis désolé, je ne sais pas si tout le monde n'y comprend rien, mais dans toutes les sciences, notamment de développement personnel et autour de ces thématiques-là, il y a de la physique quantique partout et tout est devenu quantique.
Il y a le mot quantique qui est effectivement très présent parce qu'il y a en particulier les ordinateurs quantiques, ça c'est une vérité qui est en train d'apparaître. Mais en fait, le quantique, ce qui est intéressant avec le quantique, c'est que c'est le monde de l'infiniment petit. Et les règles de l'infiniment petit ne sont pas du tout les mêmes que dans l'infiniment grand, donc là où nous sommes. Mmh. Et quand on est en bateau, au milieu de l'océan, sur un petit voilier de 11 mètres, eh bien, on se sent infiniment petit dans cet océan. Et voilà. Et donc, je me suis dit, mais peut-être que quand on traverse l'océan, on est dans l'infiniment petit, et donc on va aller chercher les lois de l'infiniment petit.
Mmh. Vous convoquez une expérience qui est monstrueuse. C'est ce qu'on appelle l'expérience du chat de Schrödinger.
Ah oui, formidable.
Qu'il avait mis dans une boîte.
Tout à fait.
Enfin, une boîte à outils.
Oui. Non, une boîte.
C'était une vraie boîte.
Alors, en fait, il l'a jamais fait. Il a juste raconté cette histoire.
C'est conceptualisé l'histoire du chat.
C'est complètement conceptualisé pour qu'on comprenne. En fait, en gros, alors là, je vais parler de physique quantique. J'espère ne pas dire trop de bêtises, mais le principe, c'est que dans l'infiniment petit, on peut être dans deux états en même temps. On peut être donc pour un chat, on peut être vivant et mort. Donc, ce qu'il a fait, il a mis un poison dans la boîte avec le chat, et un poison qui pouvait, une fiole qui pouvait se casser à tout moment selon les réactions des atomes. Et donc, à partir du moment où on est
au
niveau de l'atome,
exploser le truc, en fait.
Exploser le truc et tuer le chat. Donc, à partir du moment où au niveau de l'atome, il y a une incertitude, l'incertitude d'Heisenberg, le chat est à la fois vivant et mort. Donc, effectivement, moi, dans mon bateau, mon navigateur va rencontrer un chat qui de temps en temps sera vivant et de temps en temps sera mort.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de convoquer cette thématique de la quantique, de la physique quantique finalement?
Mais c'est justement
c'était ça. C'était la simplicité, c'était de rendre simple quelque chose qui était si compliqué que ça.
Alors j'ai pas la prétention de vouloir vulgariser la physique quantique parce que c'est vraiment très compliqué, mais je veux juste faire comprendre ce qui pour moi quelque chose de passionnant, c'est que le monde est beaucoup plus grand. Voilà, le fameux « il y a un monde plus grand », c'est-à-dire que nos cinq sens ne voient pas tout. Ça, je trouve ça absolument formidable. Donc, c'est de lever le voile sur le fait que nos perceptions de tout sont, sinon fausses, en tout cas, tout à fait partielles.
Mmh. C'est une blessure narcissique, la physique quantique?
Ah, c'est une blessure narcissique pour tous les physiciens. Parce que Kelvin, au 19e siècle, avait dit « on a à peu près tout découvert ». Et puis, quand sont arrivés les physiciens du début 20e, ça a été une vraie blessure de se rendre compte que tout ce qu'ils avaient imaginé était faux. Et donc, en fait, ce que l'on sait de mieux, c'est que l'on ne sait rien. Et d'ailleurs, cette blessure narcissique, ce qui est le plus drôle, c'est que le premier qui était blessé, c'était Einstein. Parce qu'Albert Einstein ne croyait pas à la physique quantique. Et il a essayé de prouver que la physique quantique était fausse. Et en essayant de prouver que c'était faux, c'est un de ceux qui a fait le plus avancer la physique quantique, parce que chaque fois qu'il a voulu prouver que c'était faux, il a conforté le fait que c'était vrai.
Alors, il y a trois sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui prennent la mer. C'est ce que décide de faire un jour votre héros. Il s'appelle Antoine. Il a une petite quarantaine. Il est coloriste, comme vous, et il décide de faire l'autruche.
Il décide de faire l'autruche parce que il a un cancer, il fume un paquet par jour, et c'est pas bien. Et donc, il a un cancer du poumon en phase terminale. Et là, comme toute personne malade, il fait un peu le bilan de sa vie. Et il se rend compte que sa vie de coloriste, c'est pas terrible, hein. Il fabrique.
Il est freelance, ça, lui. Donc, lui,
il est freelance.
Il est pas comme vous, hein. Il a pas été convoqué par une grande marque de luxe pour refaire ses bureaux.
Oui, non, j'ai la chance de faire pas mal effectivement, de couleurs. Lui, mais c'est un truc que j'ai failli faire. C'est pour ça que j'aurais aimé le faire. Il fait des couleurs de lunettes de toilette pour la grande distribution. Voilà. Oui, parce qu'il faut que vous sachiez.
Mais ce sont des couleurs improbables, en plus, qu'il propose, lui. Donc, je ne sais pas qui a des toilettes avec des couleurs comme ça.
Oui, c'est vrai. Parce parce qu'il faut que vous sachiez que n'importe quel produit, dans n'importe quel domaine, il y a des coloristes comme moi qui se posent la question de quelles couleurs vont être tel ou tel produit. Donc effectivement, même le saumon des lunettes de toilette qui se vend très bien actuellement, quelqu'un l'a choisi. Alors oui, moi, mon coloriste, enfin mon personnage, il a une qualité que je n'ai pas. C'est qu'il est synesthète. Et ça, c'est...
Alors, faut expliquer ce que c'est. Parce que, on l'apprend après qu'il est synesthète.
Tout c'est quoi fait. La synesthésie, c'est la capacité à associer deux sens différents. Et, en l'occurrence, c'est la plus fréquente des synesthésies. C'est-à-dire que certaines personnes, quand elles entendent un son, dans leurs yeux, elles voient des couleurs. Et il y a énormément de gens célèbres dont c'est le cas. On a, dans la musique, il y a Petrucciani, le pianiste, Scriabine, le compositeur, plus près de nous, il y a Van Allen, Robbie Williams. Dans la littérature, bien sûr, il y a Baudelaire. Qui d'autre, j'en oublie plus. Kandinsky dans la peinture.
Enfin, d'ailleurs, lui, il pense qu'un jour il sera Kandinsky, justement.
Justement, il se dit.
Le peintre.
Moi, je suis j'ai la chance d'être synesthète. Je m'en rends compte d'ailleurs très tard parce que je crois que c'est vers 10-12 ans. Parce qu'en fait, toutes ces qualités, il a l'impression que tout le monde a ce même don. Et en fait, il se rend compte que quand il voit son prof de piano, il lui dit « Est-ce que tu pourrais jouer un peu plus bleu ?» Le prof de piano il dit « Tiens, il y a quelque chose de bizarre. » Et c'est comme ça qu'il découvre qu'il est synesthète. Et donc,
Parce qu'il se rend compte que ce jour-là, il ne joue pas la musique de la même couleur que d'habitude.
Exactement. Et la couleur musicale, pour nous, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais pour certaines personnes, c'est une véritable réalité.
Mais c'est que vous savez bien, dans le milieu de la radio, on parle de couleur musicale,
oui,
en fait.
On parle de couleur, mais on n'associe pas forcément une couleur. On va dire c'est un peu sombre, etc. Mais pour certaines personnes, la couleur de tel morceau, c'est violet. Pour notre morceau, c'est bleu. Et il y en a même qui vont, Petrucciani, vous voyez, pour chaque note de musique, une couleur différente. Donc c'est vraiment littéralement de la couleur musicale.
Et vous?
Donc ils vont plus loin. Non, j'ai pas cette chance. Mais par contre.
Non, c'est quelqu'un qui l'est?
Oui, j'ai interrogé plein de gens, plein de synesthètes, notamment des enfants, parce que les enfants, ils trichent vraiment pas. Et quel bonheur. Des enfants, avec un piano, on leur jouait un sol, par exemple. Ils me disaient marron. On changeait d'octave, on jouait un autre sol, il me disait à nouveau marron, donc il trichait pas. Après, on jouait plusieurs morceaux, il disait bleu, vert, jaune, rouge. Et donc c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Il y a une autre forme de synesthésie d'ailleurs qui est très intéressante, c'est ceux qui associent des couleurs aux chiffres. Et ce sont les plus grands mathématiciens. C'est-à-dire que nous, on fait 3 fois 4 égale 12, et certaines personnes, elles font bleu fois vert égale rouge. Donc c'est extraordinaire. Et moi, ça m'a permis en tant qu'écrivain, et je me suis régalé, de parler des sons en couleur. C'est-à-dire que mon héros tombe amoureux de sa femme parce que elle a une voix orangée, etc., etc.
Mmh. C'est intéressant au quotidien de voir comment ça peut arriver comme ça. C'est pas rare, hein, parce que je regardais, je crois qu'il y a 2% de personnes qui le sont. Donc on n'est pas du tout face à un trouble très rare.
Tout à fait, 2%, mais je pense que même dans ces 2%, certaines ne s'en rendent pas vraiment compte. Et peut-être que parmi vos auditeurs, certains vont se dire, oui, c'est normal qu'on voit les couleurs musicales, bien sûr. Moi, je vois du bleu, du vert, du jaune. Sachez que 98% ne voient pas ni de bleu, ni de vert, ni de jaune quand on entend des musiques.
Bon, c'est Jean-Paul Gaultier qui a fait la couverture de votre livre, c'est ça?
Oui, non, j'ai mis une marinière parce que vous verrez, ceux qui le liront vers la fin, la marinière a son importance. Donc effectivement, j'ai une marinière avec un ciel qui est jaune.
Les couleurs invisibles, c'est le titre de votre nouveau roman, Jean-Gabriel Causse, et vous êtes notre invité jusqu'à 13h.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, j'ai invité Jean-Gabriel Causse qui vient de nous parler de son nouveau roman. Il s'appelle Les couleurs invisibles chez Flammarion. Les couleurs, c'est votre quotidien.
Oui.
Hein, puisque vous êtes, on peut dire coloriste.
Alors oui, moi. Alors,
influenceur.
Alors, moi je dis souvent coloriste, mais quand je dis coloriste, on pense que je suis coiffeur. Et je n'ai rien contre les coiffeurs, mais je ne connais absolument rien en coiffure. Donc quand des femmes me disent « Ah bon, qu'est-ce que tu penses de ma couleur ?» Là, j'ai un peu de mal. Donc il y a un terme un peu prétentieux qui est « designer color ».« Colors designer », c'est même encore plus prétentieux. Mmh. Et donc moi, j'ai cette chance effectivement de conseiller des marques dans le choix de leurs couleurs. Ça va des couleurs de logo, couleurs de beaucoup de produits. On est sur les tendances couleurs dans le textile, et moi beaucoup dans la décoration. Mmh. Parce que je travaille beaucoup sur les influences des couleurs. Sur nos perceptions et nos comportements.
Donc si vous croyez que finalement vous mettez telle ou telle couleur par hasard, pas du tout. Il y a des gens des années en avant qui réfléchissent aux couleurs qu'on va porter.
Oui, on essaye. Alors c'est le fameux proverbe, c'est Einstein, je crois, qui avait dit « N'est nouveau que ce qui a été oublié ». Donc dans la mode, on a plutôt tendance à essayer de lancer ce qui n'est plus dans votre garde-robe. Donc quand il y a eu les...
Ouais, c'est pour ça qu'on a du mauve là qui ressort cet été.
Oui, il y a pas oui effectivement avec il y a Pantone qui a sa fameuse couleur autour du mauve, mais je crois par contre très très sérieusement que il y a jamais eu aussi peu de tendances suivies, c'est-à-dire que avant il y avait quelques grands leaders d'opinion qui arrivaient à imposer une couleur. Aujourd'hui, il y a tellement de réseaux de médias, tellement d'influenceurs qui ont des goûts différents et qui vont en changer régulièrement. Qu'on trouve à peu près tout. Donc il n'y a plus vraiment de tendance. La seule tendance de fond qui est intéressante, là on parle de textile, c'est qu'on va progressivement sortir du noir et blanc et on va remettre de la couleur.
Ouais.
Le noir est de moins en moins présent. Les noirs maintenant sont plutôt des bruns très foncés ou des bleus très foncés, donc des bleus marines quasiment noirs. Mais on va sortir du noir et c'est pas plus mal. Parce que quand tout le monde est en noir, ben on n'est pas très 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 joyeux.
Ouais. J'ai appris que le noir le plus noir du monde s'appelle le
Venta Black.
Et ça, je l'ai appris dans votre livre.
Ah oui.
Ouais.
Oui oui. C'est
le Venta Black.
Absolument.
Il n'y a pas plus noir que ça.
Non, c'est tellement noir que on en a posé. Imaginez une feuille de papier d'aluminium. Vous mettez, alors c'est pas de la peinture, c'est des nanoparticules, mais imaginez que ce soit de la peinture. Vous mettez de la peinture sur votre feuille. Vous avez l'impression de voir un trou. C'est-à-dire qu'on voit même plus le reflet de la feuille d'aluminium. On voit à travers. Donc il y a un artiste dont j'ai oublié le nom, mais un peu volontairement, parce que cet artiste a préempté complètement l'utilisation du Venta Black en disant « c'est pour moi, il n'y a que moi qui ai le droit de faire des œuvres d'art avec ça ». Donc toute la communauté artistique, c'est drôle le fait de peut-être que j'ai voulu occulter son nom parce qu'il est assez connu, donc vous cherchez artiste Venta Black, vous le trouvez tout de suite sur internet. Il a dit « Venta Black, c'est pour moi, il n'y a que lui qui a le droit de faire des œuvres d'art avec ça ».
Il y a des voitures qui sont de cette couleur-là ou c'est pas possible?
Heureusement que non. Parce que s'il y avait des voitures, on les verrait pas. Mais vraiment, ce serait un trou. On s'en sert dans les télescopes.
C'est vrai? Ah ouais, ce serait vraiment un trou.
Ah oui,
c'est
oui.
Pas cette couleur tungstenisée, vous savez, des voitures allemandes ou des Porsche ou,
Ah non, c'est un noir qui réfléchit moins de 0,00000001% de la lumière. Donc, rien. Donc, tout est absorbé. Donc, on voit du noir profond. Ça va être utilisé dans les télescopes. Je crois que le dernier télescope en onde pour éviter justement les reflets. Et puis ce serait un produit qui paraît-il très très cancérigène parce que c'est des nanoparticules et si on les respire ça reste très longtemps dans nos poumons, donc c'est vraiment un produit qui n'existera pas pour le grand public. Mais par contre on est tous à travailler, moi je travaille pour des groupes industriels de couleurs, chacun cherche sa petite formule qui serait exploitable du noir le plus profond qui soit.
Votre héros s'appelle Antoine, il va apprendre qu'il a un cancer du poumon. Comme il n'en sait rien, il imagine qu'il est en phase 3 ou peut-être même plus hein, et qu'il lui reste peu de temps à vivre.
Oui.
Et plutôt que d'aller chercher le résultat, il décide d'embarquer et finalement il fait le bilan de sa vie. Et il se dit quand même qu'il va aller à la recherche des couleurs, finalement, d'affiner son expertise.
C'est ça. Donc, dans le bilan de sa vie avec sa femme, c'est pas terrible. Son travail, on en a parlé tout à l'heure, il fait des lunettes de toilette. Même si c'est un coloriste synesthète, c'est pas terrible. Il a un bateau depuis quelques années avec sa femme. Ils se sont dit un jour, on partira loin. Ils ont jamais quitté le port de Sète. Donc voilà, il fait le bilan de sa vie qui est vraiment en demi-teinte. Et il se dit, j'ai un peu raté ma vie, je voudrais réussir ma mort. Et quand on est coloriste, avant de mourir, on veut absolument aller voir les couleurs de l'atoll de Bora Bora. Donc un coloriste se doit d'avoir vu Bora Bora, paraît-il, une fois dans sa vie.
Depuis 7, c'est...
Ça fait loin.
Ça fait loin.
Enfin, depuis 7, ça fait loin. Donc voilà, il part en bateau en se disant, je vais jusqu'à Bora Bora et je vais essayer de comprendre les harmonies chromatiques de la nature. Parce que le meilleur coloriste de tous les temps... C'est la nature. C'est-à-dire que quand vous regardez un paysage, vous voyez des couleurs qui sont tellement extraordinaires. Je sais pas s'il y a un seul coloriste au monde, à part peut-être les impressionnistes qui étaient des génies absolus. À part les impressionnistes, personne n'arrive à la cheville de Dame Nature. Donc, il veut essayer de percer le secret de Dame Nature sur les harmonies de couleurs.
Alors, déjà, quand on est en mer et qu'il y a du ciel, on est surtout confronté à du bleu. À toute la palette des bleus.
Oui, c'est ça. Déjà, il y a énormément de bleus. Et puis, c'est quelque chose d'important. C'est que quand on commence à vraiment regarder quelque chose de façon attentive, on découvre des nouvelles nuances. On va découvrir des reflets qu'on n'avait pas forcément vus. Et ensuite, quand on est en mer, vous avez le soleil qui bouge, donc les ombres vont changer, les nuages vont apporter aussi, vont changer le paysage. Donc en fait, vous avez, si vous êtes vraiment attentif, vous vous rendez compte que ça change tout le temps. Les premiers jours, on s'en rend pas compte. Je crois que c'est un peu comme quand on traverse le désert. Au début, on se dit c'est toujours pareil, c'est du sable. Et puis quand on commence à développer son acuité, là, on commence à comprendre, à voir des petits détails. En tout cas, dans la mer, de voir que les vagues ont légèrement changé, qu'elles moutonnent un petit peu plus, etc. On voit les couleurs qui vont se modifier également aussi quand le soleil va baisser. Et puis, vous avez l'apothéose que sont les levers et couchers de soleil. C'est extraordinaire quand on est en haute mer. Surtout, moi, je préfère même les levers du soleil. Donc, déjà, vous avez des ciels qui ne sont absolument pas pollués par les lumières des villes. Donc, vous avez des ciels, mais c'est incroyable. J'ai jamais vu autant d'étoiles de ma vie. Et puis, ces étoiles, elles vont s'éteindre les unes après les autres. La couleur du ciel va changer, va commencer à prendre des couleurs, justement, du noir. Il va commencer à avoir un petit peu de violacé qui va être extraordinaire. Et puis, petit à petit, vous allez avoir une farandole de couleurs, un camailleux extraordinaire avec en apothéose le lever du soleil. Et je vous garantis que tout marin à qui j'ai discuté, c'est son moment favori de voir apparaître le soleil. Donc de voir vraiment un feu d'artifice de couleurs nouvelles, c'est je vous le souhaite vraiment à chacun de vous de voir un lever du soleil en haute mer. C'est extraordinaire.
Mais est-ce que vous pensez qu'on peut s'en lasser?
Alors je pense pas qu'on puisse s'en lasser. Je suis certain qu'on ne peut pas s'en lasser. Le spectacle de la nature, c'est vraiment extraordinaire. Personne à Bora Bora, justement, ou aux Antilles, va vous dire j'en ai marre de voir c'est ce bleu lagon, je le supporte plus.
Non. Si vous vivez toute l'année à Bora Bora et que vous savez que vous allez y vivre pour le reste de votre vie,
vous risquez de moins le voir.
Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous le voyez toujours de la même façon?
Peut-être pas, mais justement, ce qui est intéressant, et bon, en tout cas, mon héros, qui a peu de temps à vivre, c'est d'être le plus possible dans la contemplation et d'essayer d'apprécier. Et tant qu'on reste dans la contemplation, tant qu'on reste curieux, tant qu'on garde notre âme d'enfant, tout est beau. Pour les enfants, tout est beau parce qu'ils ont cette curiosité.
Il va faire l'expérimentation de sa propre mort,
hein, oui,
et de voir finalement la valeur des choses. Hein, vous m'avez dit, j'ai pris aucune drogue pour écrire ce livre, mais lui, qu'est-ce qu'il prend comme drogue pour justement faire cette expérience de mort dissociée?
Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui arrive à peu près à tous les marins, c'est-à-dire que comme on est obligé de rester longtemps à la barre, souvent on fait des rêves éveillés, on commence à halluciner un tout petit peu, et donc j'ai poussé le truc plus loin, c'est-à-dire qu'au début il pense qu'il rêve, puis il se dit mais c'est pas possible, je dois halluciner, et puis il y a des histoires de marins qui hallucinent, il y a des marins, des grands marins qui ont été persuadés d'avoir eu leur femme à bord avec qui ils auraient discuté. Il y a un autre marin qui a vu la tête de le compas, c'est-à-dire que c'est une boule rouge, une boussole, il avait l'impression de voir une tête de mort, une tête de singe ensanglantée. Donc vraiment, les hallucinations sont très fréquentes en mer.
C'est le manque de sommeil.
Peut-être. Et c'est la fameuse phrase que vous avez citée au début de Platon. Il y a trois sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui prennent la mer. Platon ou Socrate, on ne sait pas trop. Mais
on ne sait pas. Bon, voilà.
Ouais. Donc, le lecteur verra qu'assez vite, il se passe des trucs tellement bizarres qu'il ne peut même plus les inventer. Notamment, il va prendre des petits cours de physique quantique parce que tout ça va lui servir. On va lui apprendre des petites choses. Et donc, effectivement, il y a de bonnes chances qu'il soit mort. Et alors là, c'est purement une interprétation de ce que je suis parti effectivement dans mon imagination totale pour raconter la vie après la mort. Ce n'est qu'une théorie, je suis pas sûr que ce soit la vérité, mais en tout cas c'est une théorie qui m'a beaucoup plu et que j'ai adoré écrire et que j'espère que les lecteurs aimeront lire.
C'est un homme, on l'aperçoit, qui a beaucoup procrastiné, c'est-à-dire...
Ben, c'est-à-dire que toujours remettre au lendemain ce qu'on devait faire le jour même. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est important. En mer, c'est impossible. Parce que vous avez c'est quand même assez dangereux. Si vous remettez au lendemain ce que vous avez à faire le jour même, et ben l'avarie va arriver. C'est-à-dire que si on voit un bout sur le pont et qu'on se dit tiens, il faudra que je le ramasse, et ben il va forcément tomber à l'eau si vous ne l'avez pas ramassé au moment où vous l'avez vu. Donc la mer, c'est une école pour apprendre à ne pas procrastiner.
Et d'ailleurs, on dit boot et pas...
Ah, ben, je peux pas le dire. Ça commence par corps et ça finit par deux, mais ça porte malheur sur un bateau. Donc
je sais pas pourquoi ça portait malheur, finalement,
Parce que la mer est
C'est pas un truc où on pendait les gens, les cordes, en fait?
Ça vient, en fait, du fait que ce sont à l'époque des pirates et des corsaires, il y avait énormément de superstitions parce que la plupart des gens qui partaient en mer n'en revenaient pas vivants. Parce que soit ils mouraient dans des tempêtes, soit ils mouraient dans des batailles, etc. Donc il y avait énormément de superstitions. Et celle-là est restée. Et celle-là viendrait a priori du théâtre, où le mot... Maintenant, je peux le dire pour le théâtre. Le mot corde portait malheur au théâtre comme la couleur verte. Et les cordes au théâtre, on a besoin d'énormément de poulies pour bouger les décors et autres. Et ce sont ces personnes de théâtre qui sont venues aussi apporter leur savoir-faire sur les galions. Et donc, il y a eu un lien entre les deux. Toujours est-il que voilà, les cordes qui portaient malheur au théâtre ont du coup porté malheur en mer. Et c'est pour ça qu'on parle plutôt de boute.
D'accord.
Et qu'on n'a pas de d'animal aux grandes oreilles qui porte malheur.
Le lapin.
Ah, vous l'avez dit. Il y a eu d'ailleurs un bateau, c'est une belle histoire, Playboy qui avait voulu sponsoriser un bateau. Donc il y avait le logo Playboy sur un bateau et beaucoup de concurrents ne voulaient pas faire la course parce que dans leur champ visuel au départ, ils auraient vu cet animal aux grandes oreilles.
Ouais.
Un milieu de superstitieux.
Voilà. Et à la télévision, on ne porte pas de verre, mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec la superstition du théâtre. Ça cause des fonds.
Voilà.
Des fonds bleus ou des fonds verts, en fait. Donc on évite de porter du verre à la télévision. Et Jean-Gabriel Causse qui a mis son éternel truc rose. Vous pourrez vérifier tout à l'heure ce qu'il a mis en rose. Tout à l'heure est notre invité aujourd'hui pour parler de les couleurs invisibles. Pardon, votre éditeur, c'est Flammarion.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et on se promène dans le monde en couleurs de Jean-Gabriel Causse aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son nouveau roman qui s'appelle Les couleurs invisibles chez Flammarion. Est-ce que vous trouvez que vous avez un prénom qui vous ressemble?
Écoute, je m'y suis habitué.
Ou est-ce
habitué.
Que vous ressemblez à votre prénom, Jean-Gabriel?
Ouais, je m'y suis habitué. C'est le prénom de mes deux grands-pères, Jean et Gabriel. Mes parents ne s'entendaient pas sur mon prénom, donc ils ont pris les deux et ils ont mélangé. Et voilà, je m'y suis fait.
On reçoit aujourd'hui l'ancien animateur radio qui a sévi donc en Aveyron il y a quelques années.
Sur FM Tonique.
Voilà, sur les années 80. Mais on a beaucoup d'auditeurs à Rodez et dans toute cette vallée-là, hein, puisqu'on a un émetteur assez lourd à Toulouse. Donc on est bien écouté dans le coin. Vous êtes également designer, écrivain et spécialiste de l'influence des couleurs. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de choses. Et c'est un roman en couleurs que vous donnez, même si sur la fin, ça peut être un peu dark d'ailleurs. Hein.
On va pas spoiler l'affaire, mais moi j'y vois beaucoup de j'y vois de la lumière au contraire. Mmh. Moi j'y vois, c'est sûr qu'il y a des passages qui sont, mais pour apprécier la lumière, il faut passer par l'obscurité, sinon voilà, on a besoin des ombres pour apprécier la lumière. Et puis il n'y a pas de lumière sans ombre. Donc mais je qualifierais pas mon roman de roman
non,
sombre.
Non, je dis mais il y a des périodes un peu, puisque
bien sûr.
Il va faire un peu ce voyage finalement, il va traverser l'enfer.
Il va traverser l'enfer.
Avec... Quand on dit qu'on quand on est seul, finalement, on va au plus profond de soi-même et on.
Et voilà. Là, il va aller vraiment au plus profond de lui-même. Effectivement, la façon, c'est pour moi, c'est une odyssée de au plus profond de soi-même. C'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire, c'est essayer de qu'est-ce qu'il y a après. Et c'est pour ça que je suis parti de la physique quantique. Enfin, vous voyez, en physique quantique, ce que je trouve extraordinaire, c'est que le sol peut être mouillé parce que le verre va tomber. C'est-à-dire que dans notre monde, le verre tombe, le sol se mouille. Dans la physique quantique, le temps n'est pas forcément le même. Le temps peut être circulaire, il peut être en forme de spirale, il peut être à l'envers. Enfin, la notion de temps est complètement différente en quantique. Donc, comme mon héros, infiniment petit sur cet océan, va être un peu confronté à ces lois de la physique quantique, il va être confronté à des notions de temps qui sont très différentes et donc il va être complètement désorienté. Et je pense que le lecteur le saura un petit peu, mais je l'espère en appréciant.
Oui, le temps s'étire de toute façon quand on est en mer. Hein.
Il s'étire ou il peut être même à l'envers. Il peut partir dans toutes les directions. Enfin voilà, si on est dans l'infiniment petit, il peut se passer plein de choses. Alors, moi, ça remonte pas forcément le temps, mais il y a d'autres choses qui se passent.
Mais de toute façon, naviguer en voilier, c'est découvrir un autre rapport au temps.
C'est exactement
ça. C'est pas un TGV, c'est l'image qui prend d'ailleurs. Hein. Vous êtes dans un TGV, bon, ça va vite.
Voilà, ça va vite et vous arrivez avec un quart d'heure de retard dans votre gare d'arrivée, vous pestez en disant c'est pas possible. Quand on est en mer. L'important, c'est d'arriver, qu'on mette 3 jours, à part ceux qui sont en course, mais quand vous n'êtes pas en course, que vous mettiez 6 jours, 7 jours, 8 jours, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'arriver à destination. Et c'est pas toujours facile dans le sens où vous savez vraiment, je repars sur l'infiniment petit, mais vous n'avez, vous êtes, la mer est tout par rapport à vous. C'est-à-dire que si les éléments se déchaînent, vous êtes vraiment en danger. Donc, quelque part, tout ce qui compte, c'est d'arriver. Vous avez toujours cette appréhension. On voit la mer comme quelque chose de réconfortant, de chaleureux. La mer, pas du tout. La mer, on n'est rien pour la mer. Et une maladresse, on est mort en bateau. Donc, on cherche pas, on n'est plus sur la notion de temps, on est sur la notion d'arriver.
De toute façon, vous partez, la mer est calme. Voilà. Vous devez revenir le soir, la mer s'est déchaînée, on n'est plus du tout dans la même ambiance. Hein.
C'est exactement ça. Donc voilà, quand vous revenez et que la mer est déchaînée, que vous arrivez avec un quart d'heure de retard ou pas, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de revenir. Donc effectivement, la notion de temps est complètement différente. Et d'ailleurs, on dort plus du tout de la même façon aussi quand on est en mer. C'est-à-dire qu'on dort de façon fractionnée. Un peu comme beaucoup d'animaux d'ailleurs, on dort 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, mais une nuit de 9 heures, c'est plus possible.
C'est des micro-siestes de toute façon.
C'est des micro-siestes. Mais des micro-siestes qu'on fait naturellement, on n'a pas à se forcer. Alors des fois, quand on est très 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 fatigué, on peut se laisser s'abandonner 5-6 heures, mais jamais plus d'ailleurs. Mais ce qui est trop. Mais quand on est en mer, on dort très peu, souvent mais très peu. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a des hallucinations, comme on parlait tout à l'heure. Mais c'est quelque chose de vraiment extraordinaire que je suis heureux de partager avec mes lecteurs et avec vous aujourd'hui.
Avec les lecteurs. Quelle est sa notion de la vie réussie à lui?
La vie réussie pour lui, justement, il va essayer de faire tout ce qu'il a pas fait, c'est-à-dire quelque part on l'a pas dit, mais il va retomber amoureux de sa femme dans ce roman,
même si à qui il finit par trouver beaucoup de qualités.
Oui.
Qui lui était pas évidente au moment où il l'a quitté.
Exactement. Donc, dans son odyssée, il va retomber amoureux de sa femme. Donc, pour moi, la notion numéro un de réussir sa vie, c'est réussir sa vie personnelle. Il va trouver des choses qui vont l'intéresser dans les couleurs. Parce que, bien sûr, ça parle beaucoup de couleurs. Donc, professionnellement, il va être certainement enrichi. Voilà. Donc, réussir sa vie, je pense, je veux pas spoiler la fin, mais que cette croisière en bateau va lui permettre de réussir plein de choses.
Et à un moment donné, il dit, le bonheur n'est pas une fin en soi. C'est quoi la fin, alors?
Question de philosophie.
Non, mais c'est finalement, on tend pas vers le bonheur. C'est pas le bonheur qu'on doit rechercher. Et ce qu'on doit rechercher, c'est pas le bonheur permanent.
C'est-à-dire qu'il existe, heureusement que le bonheur permanent n'existe pas. C'est-à-dire que le bonheur est une quête. On doit toujours veiller à chercher à être heureux. Mais si on a trouvé le bonheur et qu'on s'en satisfait entre guillemets, ben on va tomber dans l'habitude et on ne sera plus heureux. Donc je pense que le vrai bonheur n'existe pas. Le bonheur est une quête. On cherche le bonheur. La joie existe. On peut être très heureux sur un moment, mais le vrai bonheur avec une majuscule, c'est quelque chose vers lequel on tend. Mais c'est bien que ce soit quelque chose vers lequel on tend, parce que mon héros, sans trop en parler justement, lui, il va connaître le bonheur figé. Et au bout d'un moment, ça va être quelque chose même presque d'horrible d'être heureux. Oui, c'est assez paradoxal, mais je pense que en fait, aucun humain normal n'a jamais connu le bonheur suffisamment longtemps pour le trouver, pour s'en lasser, mais si c'était le cas, je pense qu'on pourrait s'en lasser.
Jean-Gabriel Cosse, qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de Beethoven, dans le cerveau de Beethoven? Bon, vous regarderez dans le livre. Vous êtes venu avec votre pantalon rose, et le rose, c'est la couleur qui vous accompagne sur toutes vos promotions.
Oui.
Qu'est-ce que ça a de particulier, le rose? Quelle est la symbolique? Parce qu'en fait, toutes les couleurs ont une influence.
Tout à fait. Alors, déjà, moi, c'était un peu par hasard. Ma première télévision, je l'ai fait effectivement avec un t-shirt rose. Et comme ça s'est très bien passé, c'est devenu un peu ma couleur fétiche. Donc, personnellement, dans mon acquis, rose égale média qui se passera bien. Donc voilà, maintenant je mets du rose, c'est tout à fait naturel. Mais d'un point de vue beaucoup plus général pour l'ensemble des gens, il faut savoir que le rose, c'est la couleur du bonheur. Quand on dit voir la vie en rose, c'est scientifiquement prouvé depuis une dizaine d'années. Il y a plein d'études qui montrent que le rose égale bonheur.
Donc ça, c'est les neurosciences qu'ils disent.
Il y a les neurosciences. Quand vous regardez un aplat de couleur rose, vous activez les mêmes zones dans votre cerveau que quand vous regardez des images d'enfants qui sourient. C'est une étude qui est basée sur des photos. On se rend compte que c'est à peu près les mêmes zones du cerveau qui sont activées.
Ouais.
Donc, voir la vie en rose, ça existe. Dans des écoles aussi, on a repeint des salles de classe qui étaient beiges en rose et on a comparé les dessins des enfants avant et depuis que ces salles de classe sont roses. Et on se rend compte que les thèmes abordés depuis que les salles de classe sont roses sont beaucoup plus positifs, des sourires plus marqués, des soleils plus gros, etc.
Donc, alors avant, c'est vrai que les hommes portaient moins de roses. Hein. Je me rappelle quand on a vu arriver les premiers polos Lacoste de cette couleur-là, il y avait ceux qui les portaient et ceux qui ne les portaient pas.
C'est vrai, mais ça c'est très culturel et c'est très occidental. Aujourd'hui, enfin le rose a toujours n'a jamais été une couleur masculine ni féminine, pardon, féminine en que ce soit en Asie, en Afrique, etc. C'était vraiment en Occident où on considérait que le rose était la couleur féminine, ce qui n'a pas toujours été le cas. Sachez que la couleur féminine pendant au moins une dizaine de siècles, c'était le bleu. La Vierge Marie, elle a un manteau bleu. Donc le rose égale couleur féminine, c'est assez récent en fait. Et d'ailleurs, il y a une très belle théorie qui ça daterait de Marie-Antoinette en fait. Rose égale couleur féminine. L'histoire, c'est que Marie-Antoinette adorait les couleurs, en particulier le rose. Le petit Trianon à Versailles était tout rose. Elle a mis des tentures roses partout. Ses dames de compagnie étaient habillées en rose. Les moutons étaient teints en rose. Donc c'était vraiment la couleur de la reine. Mais les hommes...
Moutons étaient teints en rose à l'époque.
Quand elle jouait à la bergère.
Ouais.
Et les hommes de la cour de Louis XVI portaient du rose sans se poser de questions. Et puis comme la reine était vraiment très attirée par cette couleur et que la reine était connue pour être assez volage, les hommes de la cour de Louis XVI se sont dit, si je porte du rose, on va croire qu'il se passe quelque chose avec la reine et que je risque de finir décapité quelques années avant eux, sous-entendu. Donc les hommes à la cour de Louis XVI se sont dit, le rose, c'est pour les filles. Et les femmes de Paris ont suivi cette mode de Marie-Antoinette qui s'habillait en rose, et le rose est devenu une couleur très féminine. Donc c'est daté 1787, 8, 9... Voilà, où le rose était la couleur.
Voilà
féminine.
Pourquoi vous portez du rose. Et avec Giovanni, nous portons du rouge. Alors le rouge, est-ce qu'on peut porter du rouge déjà en entretien d'embauche?
Alors, ça dépend quel style de job que vous cherchez. C'est-à-dire que le rouge, c'est la couleur du leader. Quand vous portez du rouge, vous affirmez votre autorité. Regardez tous les hommes politiques de Trump à Mélenchon, etc.
Vous avez vu que Mélenchon a opté pour la cravate Trump.
Ah ouais. Oui, mais c'est ça. Ouais. C'est de dire, je suis un chef, j'ai ce charisme-là. Vraiment, quand vous portez, même Obama, le jour de son investiture, avait mis une cravate rouge. C'est pour dire, voilà, je suis un chef prêt à gouverner l'Amérique. Donc, rouge égale, c'est vraiment la couleur de la domination. C'est nos cousins gorilles, etc. Le mâle dominant, c'est celui qui a les fesses rouges, les yeux rouges. Donc, c'est la couleur du chef. Donc, c'est très bien quand vous êtes un entretien d'embauche pour devenir patron. Un DRH qui vous voit arriver en rouge te dit, voilà un leader pour ma société, il va être formidable. Par contre, si c'est votre supérieur direct qui vous voit arriver et que vous arrivez en rouge, il va se dire, il veut mon poste ou quoi celui-là? Donc, c'est une couleur à éviter, sauf pour un poste de direction. Vraiment, c'est la seule couleur à éviter.
Giovanni, hein? Non mais c'est vrai, il faut éviter de porter du rouge. Non, je
disais pas ça. Plus non, en rouge.
Voilà, je disais pas ça pour envoyer le générique, mais c'est vrai que le rouge, voilà, c'est une couleur à ne pas porter. Mais est-ce que ça peut être une couleur de séduction?
Ah oui, par contre pour la femme, le rouge, c'est la couleur de séduction par excellence. Et d'ailleurs, alors c'est plus la couleur de la sexualité du sexe que la couleur de l'amour et du romantisme. On a comparé les photos de femmes, de profils de femmes sur des sites de rencontres où elles cherchaient le grand amour et sur d'autres sites où elles cherchaient plutôt le grand frisson. Et les femmes sont surreprésentées habillées en rouge quand elles cherchent à passer une bonne nuit que quand elles cherchent leur prince charmant, où là elles sont beaucoup plus en pastel dans des couleurs roses, vert, jaune, des couleurs beaucoup plus douces.
Qu'est-ce qu'on met comme couleur sur un site de rencontre pour justement avoir le plus de retours possible? Alors, sur investissement,
ça dépend ce que vous, ça dépend de votre objectif. Pour un homme, ça marche pas. C'est-à-dire que les couleurs
n'ont aucun impact.
Si rouge peut, vous pouvez passer pour un chef. Voilà. Ouais. Donc si vous avez votre cravate rouge, les femmes qui sont attirées par des patrons peuvent être intéressées. Mais c'est à peu près la seule couleur qui peut avoir une influence. Après, pour nous, il va falloir qu'on trouve autre chose, les hommes. Et pour les femmes, mon conseil numéro un, c'est ne suivez pas les modes, mais écoutez-vous. Quelles sont les couleurs où vous vous dites, je me sens bien dans cette couleur? Si vous vous sentez bien dans une couleur, c'est que c'est votre couleur. Et suivez pas forcément les magazines de mode qui vous disent cette année portez du violet ou autre. Portez les couleurs que vous aimez, vous serez encore plus belle.
Jean-Gabriel Causse, qui était notre invité, je rappelle le titre de votre nouveau roman, ça s'appelle Les couleurs invisibles chez Flammarion. Merci d'avoir été avec nous.
Merci Philippe, un vrai plaisir.
Écoutez, plaisir partagé. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo de cette émission sur la chaîne YouTube. Passez un bon dimanche sur Beurre FM.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.